Source UCA New Foundation Fellowship, transcrit par Simon K. Watson, puis modifié pour la langue et la ponctuation actuelle. Christ exalté sur son T-R-O-N-E et l'accent aigu C-R-I-T-U-R-E reconnu à sa place un message d'un jeune homme de 18 ans, fait ministre par Christ à 16 ans par James Pownell, 1654 « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Tim 3 « 12 heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. » Matt 5 dit « persécuté, il mourut en prison, peu après avoir écrit ceci et plusieurs autres traités. » Un bref résumé de sa vie figure à la fin de cet écrit. Une biographie complète de sa courte vie, avec plusieurs lettres merveilleuses, est également sur le site. La plupart, si on leur demandait, diraient que c'est Christ qui règne et non l'Écriture. Cependant, pour que Christ règne sur vous, vous devez aller à lui en vous asseyant, avec patience et persévérance, dans un silence humble, pour l'attendre, en écoutant ses paroles qui vous sont adressées et en guettant ses révélations, puis vous devez obéir à tout ce qu'il commande. Alors seulement vous suivez Jésus, et alors seulement il règne sur vous. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué, pour renvoi au passage biblique ou pour plus de détails dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué vers la Bible en ligne, vous pouvez changer et mettre à jour pour voir la version de la Bible que vous préférez. Voici donc le message que nous avons reçu du Père. Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous marchons dans les ténèbres et que nous disons être en communion avec lui, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 5, 7 Et ceci est la parole qui était au commencement, par laquelle toutes choses ont été faites, et en lui était la vie, et sa vie était la lumière des hommes. Jean 1, 1, 4 Par cette lumière, tous les saints hommes de Dieu, dans les temps anciens, furent inspirés. Par cette lumière, Moïse vit les choses qui furent faites au commencement, et il en écrivit le récit. Cette parole était une lampe aux pieds de David, et une lumière sur ses sentiers. PS 119, 105 Cette lumière habitait dans les prophètes et les saints hommes, par laquelle ils virent le jour de Christ, et écrivirent à son sujet, Iacutes 49, 6, 79, et parlèrent comme ils en étaient mus, et par elle ils virent la tromperie, les iniquités et les transgressions d'Israël, et ils déclarèrent contre cela chez les prêtres, le peuple et les gouvernants, annonçant fidèlement la parole du Seigneur, qu'ils veuillent entendre ou s'abstiennent. Esdemie 3, Iacutes 56, et cette parole vint aux prophètes, qui étaient comme un feu et un marteau dans leurs os, Jer 29, 23, 29. Cette parole en son temps devint chair et demeura parmi les apôtres, et ils en virent la gloire comme celle du Fils unique venu du Père plein de grâce et de vérité, Jean 1, 14, dont Jean rend témoignage comme étant la lumière du monde, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Jean 1, vers cette lumière, Paul fut envoyé pour tourner les esprits des païens, Actes 26, 17, 18. Cette lumière est la condamnation du monde, de ceux qui aiment les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises, et celui qui la hait, la possède, bien qu'il ne veuille pas amener ses œuvres à elle pour qu'elles soient éprouvées par elle, c'est pourquoi sa condamnation est là. Jean 3, 19, 21 Il y a un temps où la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas, et c'est la cause pour laquelle beaucoup y trébuchent et s'en offensent. Jean 1, 5 Et il y a un temps où la lumière jaillit des ténèbres, et les ténèbres s'enfuient, alors se manifeste le jour parfait où marchent les enfants du jour. Iacutes 42, 16, Matt 4, 16 et 5, 8. Cette lumière est le véritable éprouveur des esprits, elle donne le discernement des esprits, découvre les œuvres des ténèbres et manifeste les actes des ténèbres. Par elle les secrets du cœur sont vus, les choses cachées sont dées, par elle toutes choses sont manifestes, et tout ce qui rend manifeste est lumière. Hébreux 4, 12 et 5, 13, chose que l'homme naturel ne connaît pas, et ne peut donc recevoir les choses de Dieu. Mais par cette lumière il est vu et jugé, car par cette lumière l'homme spirituel est capable de discerner et de juger l'homme naturel. 1 Cor 2 14 15 Car c'est là le juge du monde, et par elle le prince de l'air est jugé partout où il règne, Jean 16 11 Et c'est pourquoi il enrage contre elle et excite ses serviteurs à la persécuter là où elle se manifeste, ainsi elle est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les enfants du monde, en qui loge le prince de ce monde. Rome 9 33 Et de cette parole, l'apôtre Paul rend témoignage, elle est vivante et agissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, articulations et moelles, elle juge les pensées et les intentions du cœur, Hébreux 4 12. Vers cette parole, l'apôtre dirigeait l'esprit des gens au-dedans d'eux, les détournant de regarder au-dehors pour la trouver au-dehors, Rome 10 8. Et de cette même parole, les apôtres ont énoncé l'Écriture, cette parole était leur guide, leur règle et leur maître depuis le commencement. Par elle, apôtres, prophètes et saints hommes ont été agis, mus et portés par sa puissance pour déclarer ce qu'elle leur enseignait. 1 Jean 1 2 2 Pierre 1 21 Et c'est la libre grâce de Dieu qui apporte le salut et est apparue à tous les hommes. Tite 2 11 12 Elle est la condamnation de ceux qui marchent avec mépris contre elle. Hébreux 10 29 mais elle fut le maître des saints, par lequel ils apprirent à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre pieusement, justement et sobrement dans le présent monde mauvais. Tite 2, 11-14 Et voici l'onction, qui enseigne librement toute chose, qui est vérité et non mensonge, et qui conduit dans toute vérité, et celui qui connaît cela n'a besoin de personne pour l'enseigner, mais il est arrivé au terme de l'enseignement de l'homme, 1 Jean 2, 27. C'est à cela que le prophète est venu, et c'est pourquoi il a dit, « Venez, achetez du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre travail pour ce qui ne profite pas ?» Iacute 55, 1, 3. Et de cela l'apôtre parlait librement, ne convoitant ni l'argent ni l'or des hommes, mais comme ils avaient reçu gratuitement, ils donnaient gratuitement. Acte 20, 33. Et quiconque parle à partir de cela parle librement, et son ministère mène à la fin de l'enseignement, et ici, que toute chair fasse silence devant le Seigneur. Zacchée 2, 13. Et que tous les mercenaires et les bergers avides fermant la bouche, eux qui crient paix à ceux qui mettent dans leur bouche, mais sinon, ils préparent même la guerre contre eux, et des gens semblables, le prophète dans la lumière les a vus, et par elle il a témoigné contre eux. Mi 3, 5. Et tout cela, l'Écriture en rend témoignage, car elle a été prononcée à partir de la lumière. Mais l'Écriture n'est pas la lumière, ni la parole, ni la vie, ni le juge, ni la règle, ni le guide, ni l'éprouveur des esprits, car tout cela appartient à Christ, qui est le discerneur des pensées et des intentions du cœur. Hébreux 4, 12, qui est la lumière, Jean 8, 12, qui est la parole, Jean 1, 14, qui est la vie, Jean 14, 6, lui qui blâma les pharisiens qui pensaient trouver la vie éternelle dans les Écritures. Mais... Et Hébreux 30, 21. Y aurait une véritable déclaration, prononcée à partir de cette parole de vérité, dont chacun a une mesure de la lumière, qui pourrait le don gratuit de Dieu afin de profiter à tous. Cette lumière dans la conscience reprend le péché et l'iniquité, manifeste la tromperie du cœur, et arrête la créature lorsqu'elle jure ou ment ou agit mal, lui disant qu'elle ne doit pas agir ainsi. Elle appelle à la repentance et à l'amendement de vie, et conduit à mesure qu'elle est reconnue et suivie, et tous ceux qui la reçoivent reçoivent. Jean 8, 12 et Jean 1, 12, Rome 2, 4 Mais celui qui fait le mal est la lumière, et ne veut pas amener ses œuvres à elle, pour qu'elles soient éprouvées par elle, et pour lui ses condamnations. Mais celui qui aime la lumière amène ses œuvres à la lumière pour montrer si elles ont été faites par Dieu. Jean 3, 20, 21. Mais de cette lumière, vous, gens et enseignants du monde, vous êtes ignorants, et ainsi vous vous complaisez dans l'Écriture au dehors, avec vos esprits obscurs comme les pharisiens aveugles, cherchant la vie là où elle ne se trouve pas. Mais vous ne voulez pas venir à Christ la lumière pour avoir la vie. Vous voudriez le chasser de son trône et exalter les Écritures au-dessus de lui, les appelant le juge et la lumière et la parole et la vie et la règle et le guide. Ainsi, avec vos esprits obscurs, vous voudriez ôter l'autorité à Christ. Et ainsi vos conducteurs vous font errer, Hébreux 3, 12 pour leur propre fin, et des Écritures ils font une idole pour obtenir de l'argent en y ajoutant leur propre sens, interprétation et construction, qui ne sont que les conceptions et imaginations de leur propre cœur. Par cela ils vous mènent dans l'aveuglement, apprenant toujours, sans jamais pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité dans vos cœurs. Mais vous regardez au dehors, vous vous complaisez au dehors dans la lettre, agissant et imitant hors de la lumière pour la. Et ainsi en vain, Jean 4, 22, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, exaltant ses ordonnances, exaltant ses commandements, exaltant l'Écriture, l'élevant à la place de Christ. Et ainsi vous vous approchez de lui avec vos lèvres, tandis que votre cœur est loin de lui. Matt 15, 9, vivant toujours dans la nature corrompue et pécheresse, ignorant de la libre grâce de Dieu, qui devrait vous conduire à la repentance et à l'amendement de vie. Éph 2, 5, 8 Et parce que nous rendons témoignage de ce mystère, qui a été caché aux siècles et aux générations, maintenant manifesté en nous, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Col 1, 26, 27, lui qui est la lumière du monde, qui éclaire tout homme venant dans le monde, lui qui est le vrai berger, Jean 10, et le vrai maître, qui ne doit plus être relégué dans un coin, Hébreux 30, 20, 1 Jean 2, 27, lui qui est l'onction, qui enseigne toutes choses et qui met fin à l'enseignement. C'est pourquoi vos ministres de la lettre, qui font commerce et profit de la lettre en l'idolâtrant, et en la plaçant à la place de Christ, en prenant l'autorité à Christ pour l'appliquer à la lettre, afin que vos esprits instruits par eux soient d'autant plus attirés vers l'extérieur pour la regarder et l'idolâtrer, en attendant d'elle la vie et le salut, et sans espoir sans elle, afin qu'ils puissent plus longtemps faire commerce de vous et continuer à soutenir leur métier et en tirer profit, voient maintenant que notre doctrine, à savoir que Christ est et que l'Écriture, de bout en bout, témoigne avec notre doctrine qu'elle est une avec elle, et que la leur est une autre doctrine, que l'Écriture ne soutiendra pas, mais à laquelle l'Écriture s'oppose, et qui n'est introduite que pour l'argent, afin de satisfaire leur propre fin charnelle, pour qu'ils puissent dominer par ce moyen, comme le faisaient avant les faux prophètes. 30-31 Et cette lumière, tout au long, les rend manifestes sous toutes leurs couleurs et leurs faux déguisements, de sorte qu'ils ne peuvent se cacher sans être des trompeurs. Et ils savent aussi ceci, si chacun vient à connaître et à trouver en lui un maître qui lui enseigne la volonté de Dieu et le rend capable d'y obéir, de sorte qu'il n'ait besoin de personne pour l'enseigner, alors en vérité, ils ne dépenseront plus leur argent auprès de pour ce qui n'est pas du pain, ni leur travail pour ce qui ne profite pas, et ils ne seront. Ainsi non seulement leur art, leur commerce et leur idole leur feront défaut, mais encore leurs grands profits et leurs richesses leur seront enlevés, et tout leur honneur, leur renommée et leur dignité tomberont à néant. C'est pourquoi dans leur ardeur, leur fureur et l'inimitié de leurs esprits, Il se dresse pour s'opposer à cette lumière partout où elle apparaît, et persécutant les annonceurs de cette doctrine, il les injurie comme trompeurs, séducteurs, introducteurs de fausses lumières, et comme des gens qui nient l'Écriture et voudraient la dépouiller de son autorité pour la donner à une lumière en eau que les prêtres appellent lumière naturelle, et insuffisante pour conduire au salut sans l'aide de l'Écriture et d'autres secours extérieurs, et ainsi il voudrait placer l'Écriture au... Ainsi apparaît clairement le fondement sur lequel ils se tiennent, et c'est la raison pour laquelle ils appellent l'Écriture leur fondement. Et ainsi, toute cette autorité qu'ils attribuent à l'Écriture, ils l'enlèvent à Christ, qui seul est le fondement des fidèles, dont l'Écriture est une déclaration. Et ainsi nous la reconnaissons par la même chose qu'il a produite, ce qui pour nous l'ouvre et la révèle et montre qu'ils sont hors de sa vie. Et ainsi, par sa vie, ils sont jugés et condamnés, comme on l'a prouvé plus haut. Et bien qu'ils l'appellent la parole, elle témoigne pourtant contre eux et témoigne que Christ est la parole avant que l'Écriture fût écrite. Jean 1 Et bien qu'ils appellent l'Écriture la lumière, elle témoigne pourtant contre eux et témoigne que Christ est la lumière avant que l'Écriture fût écrite, et qu'il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Dieu par lui, et ceux qui montent par un autre chemin sont des voleurs et des brigands. 10:1 Et donc ce n'est pas une lumière naturelle insuffisante, comme ceux qui ne le connaissent pas le rapportent de lui, montrant ainsi qu'ils sont aussi ignorants que les pharisiens, qui le supposaient seulement fils de Joseph, tout en s'étonnant de sa puissance et des œuvres accomplies par lui. De même, ceux-ci s'étonnent aujourd'hui de la prospérité de ce ministère de la lumière, et de voir comment il l'emporte sur les cœurs du peuple. Si bien qu'ils ne savent que penser, ils ne sont pas capables de lui résister, mais ils voient qu'il frappe si fort. Mais qui est capable de faire la guerre à l'agneau, ou qui pourra soutenir le jour de sa venue? Seul, seul, il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Et bien qu'ils appellent l'Écriture leur règle et leur guide, elle témoigne pourtant contre eux qu'ils sont dans la voie de Caïn, la voie de Balaam, et dans la contradiction de Corée, et ainsi ils n'ont pas Dieu, Jude 1, 11, 2 Jean 1, 9, mais se trouvent être la génération née selon la chair qui persécute ceux qui sont nés selon l'esprit. Galates 4, 29 Et bien qu'ils appellent l'Écriture leur règle et leur guide, ils ne reçoivent pas d'elle la puissance qui leur permettrait de marcher selon elle, mais ils s'en écartent entièrement dès que quelque chose contrarie le moi, tandis que tous ceux qui reçoivent la lumière reçoivent la puissance de la suivre, et de sortir de la nature corrompue et pécheresse dans laquelle vivent ceux qui ne connaissent pas la lumière, Jean 1, 12, et ici la lumière est au-dessus de l'Écriture. Et bien qu'ils disent que l'Écriture est le juge et l'éprouveur des esprits, elle témoigne pourtant contre eux qu'ils sont des menteurs, et rend témoignage que Christ est le juge, l'éprouveur, le sondeur du cœur et le discerneur des pensées, Hébreux 4, 12, Romains 1, 16, 1 Pierre 4, 5, et que tout ce qui rend manifeste est lumière, Hébreux 5 et 13, donc ce qui manifeste les faux esprits, c'est la lumière et non la lettre. Cette lumière a manifesté et découvert de faux esprits avant que l'Écriture fût écrite. Et encore, bien qu'ils disent que l'Écriture est le juge et l'éprouveur des esprits, pourtant, par l'Écriture ils ne peuvent discerner ni juger les esprits. Autrement, qu'est-ce qui produit toutes ces différences de jugement parmi eux, qui professent éprouver les esprits par l'Écriture et la proclament leurs règles, fondant leur jugement sur elle, et pourtant sont si confus à son sujet, et pas un seul ne sait quelle est la vérité, alors que le chemin n'est qu'un. Il s'ensuit donc qu'ils n'ont rien que l'Écriture au dehors, et restent toujours au dehors, dans les ténèbres et la confusion, comme cela apparaît chez tous ceux qui appellent l'Écriture leur règle, leur guide, leur juge et l'éprouveur des esprits, et pourtant ne connaissent pas la vérité, mais ils se crêlent, se disputent, argumentent, controversent et contestent à propos de l'Écriture, chacun avec un jugement différent sur elle. Assurément, cette distraction n'est pas dans l'Écriture, car elle a été prononcée par un seul, et tout y concorde en un. Si vous qui professez dans l'Écriture, voyez si vous pouvez la découvrir par l'Écriture, et voyez où vous en êtes, mais ceux qui sont dans la lumière ont communion les uns avec les autres. 1 Jean 1 7 Et ils sont d'un seul cœur et d'une seule âme. Actes 4 32 Et tous s'accordent en un et sont des épîtres écrites dans le cœur les uns des autres. 2 Cor 3 2 Et par la lumière ils éprouvent et discernent les faux esprits, et en elle ils sont capables de les juger et d'ouvrir les Écritures au dehors sans les tordre, ni y a. Et ceux qui ne savent même pas lire ont cette lumière, suffisante pour les enseigner et les conduire dans toute vérité, après qu'ils en viennent à la connaître. Et c'est à partir de cette lumière que l'Écriture a été prononcée. 2 Pierre 1, 21. Et sans cette lumière, personne ne peut lire l'Écriture avec intelligence. Et ici, la lumière est avant l'Écriture. Et hors d'elle, tous les enfants des ténèbres sont exclus, avec leurs esprits agités et leurs esprits crêleurs et vains, et bien qu'ils disent devoir recevoir la vie et le salut de l'Écriture. PS 39, PS 144 dit « Et les pharisiens avaient l'Écriture, pourtant ils n'avaient pas la lumière, et ils ne pouvaient pas voir qu'il était le Christ, bien que l'Écriture rendît témoignage de lui, et ils ne voulaient pas venir à lui pour la vie et le salut, mais se confiaient dans l'Écriture, pensant y trouver la vie éternelle, et ne l'y trouvèrent pas. » Jean 5, 39, 40 « Comme vous tous maintenant, qui cherchez le vivant parmi les morts, et ici encore la lumière est au-dessus de l'Écriture, cette lumière est en nous l'espérance de la gloire. » Col 1, 26, 27 « Et ceux qui ne peuvent en rendre témoignage sont dans la réprobation, bien qu'il ait l'Écriture au dehors. » Cor 13, 5 « Et c'est de la lumière que nous recevons la vie et le salut, et de nul autre, et elle seule est notre guide, notre maître, notre juge et notre législateur, même si nous ne voyons jamais de l'être. » 1 Cor 3, 11 Rome 8, 15 Et ici ce n'est pas le moi qui juge ou condamne, mais Christ qui vit en nous, Galates 2:20, et ce n'est pas le moi qui nous justifie, mais Christ qui vit en nous, et ici Christ est exalté sur son trône, et l'Écriture reconnue à sa place sans mépris ni dépréciation. Et l'on trouve que ce sont des ministres de l'Antichrist, ceux qui voudraient chasser Christ de son trône, et sortir l'Écriture de sa place pour l'exalter au-dessus de lui, lui appliquant l'autorité qui n'appartient qu'à lui seul, pour leur propre fin secrète et égoïste, de sorte qu'en appliquant une telle autorité à l'Écriture, ils dépouillent Christ de son autorité et le rabaissent comme firent les pharisiens qui pensaient trouver la vie éternelle dans les Écritures, mais ne voulaient pas venir à Christ pour avoir la vie. Vous et vos enseignants vous trouvez main. Et si vous, prêtres, alléguez qu'il y a une fausse lumière autant qu'une vraie lumière, je réponds que c'est en vous qu'elle est, celle qui aveugle vos esprits, de sorte que vous ne pouvez recevoir cet évangile, mais qu'il vous est caché. 2 Cor 4, 3-4. Et c'est pourquoi vous apportez un autre évangile, appelant les quatre livres Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'évangile, en quoi ces quatre livres témoigneront contre vous et rendront témoignage que Christ est l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut, lui qui est l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde, qui est venu ôter les péchés du monde, et heureux ceux qui ne sont pas scandalisés en lui. Jean 1:26, Jean 1:13, Luc 7:23. Et aussi, il y a en vous une fausse lumière, qui vous conduit à la forme, ou à la ressemblance, ou à l'apparence extérieure de la sainteté, mais qui nie la vie et la puissance, 2 Tim 3:5, et à professer que l'Écriture est votre règle, mais à la nier dans la vie et la pratique. Et bref, elle conduit à une profession sans possession, mais ce qui conduit à la vie et à la puissance n'est pas une fausse lumière, car elle conduit à la possession avant la profession, et ainsi la profession vient de la possession, tandis que votre profession. Vous faites, mais par là même vous apportez une arme pour vous trancher la tête, et vous soulevez une guerre pour vous détruire vous-même, et pour accroître davantage la lumière pour le peuple, et vous rendre aux dieux en manifestant que vous êtes les guides aveugles de la nation, lesquels doivent être rejetés, de Jean 2, 9-10, et que nous devons éviter comme des trompeurs et tenir pour maudits, eux qui apportent une autre doctrine en opposition à la vraie doctrine tenue devant nous dans l'Écriture, car l'Écriture et la lumière s'accordent en un, et de l'une. James Pownell, biographie de James Pownell. James Pownell est né en 1636 à Retford, dans le Nottinghamshire, en Angleterre. Pownell rapporte qu'à l'âge de 14 ans, il était aussi accompli dans le péché que quiconque dans la ville où il vivait, et qu'il surpassait beaucoup dans la méchanceté de sa vie. Bien qu'il fût un artisan majeur du mal dans sa communauté, lorsqu'il était seul, il était repris par une lumière, et cette lumière l'éloignait de plus en plus du péché et du monde, jusqu'à ce qu'enfin son cœur fût tellement changé qu'il fût rejeté par sa famille et par la communauté. Les prêtres le haïssaient, car ses fruits mettaient en évidence leur manque d'eux-mêmes. Et ses anciens amis et compagnons étaient si irrités par sa bonne conduite qu'ils le menacèrent de le tuer. Quand James Pownell constata que les prêtres étaient charnels et que, avec le peuple qui les suivait, ils n'avaient qu'une forme, tout en niant la vie et la puissance de la vraie religion, il se sépara d'eux et chercha un peuple avec lequel il pourrait avoir l'unité. Il est probable que ce fut en l'année 1651, lorsqu'il avait environ 14 ans, qu'il se sépara des professants charnels et chercha un peuple avec lequel il pourrait s'unir en communion religieuse, et il dit « Il y avait des gens avec lesquels je trouvais l'union à quelques milles de la ville où j'habitais, que le Seigneur rassemblait hors du monde obscur, pour s'asseoir ensemble et attendre son nom. » Avec eux, il porta l'opprobre de Christ, et il accepta pour l'amour de lui, d'être compté parmi ceux qui étaient regardés comme la lie de la terre. Mais dans leurs afflictions et leurs persécutions pour l'amour du Sauveur, il se réjouissait en se rappelant qu'il était écrit que ceux qui voudraient vivre pieusement en lui souffriraient la persécution. Et il considérait que c'était de plus grande richesse d'être son peuple et de souffrir la haine et le mépris de tous, que de jouir des plaisirs du péché pour un temps, et sachant qu'il souffrait pour l'amour. « Vers ce temps-là, dit James Pownell, j'avais environ 15 ans, et ensuite je fus appelé à visiter quelques amis dans la partie nord de l'Angleterre, avec lesquels j'avais union en esprit avant de voir leur visage. Pownell était déjà en communion dans l'esprit avec d'autres également dans l'esprit, bien qu'ils fussent à des milles de distance. Pownell entendit parler de George Fox, fondateur des Enfants de la Lumière, plus tard désigné avec mépris comme Quakers. Fox était en prison à Carlisle. James marcha donc 150 milles pour rendre visite à Fox dans sa cellule. Bien que Pownell eût été élevé par Dieu à un état de cœur et d'esprit converti, lorsqu'il rencontra Fox, il fut aidé par le pieux aîné Fox, qui prêchait depuis 7 ans. Le Seigneur fit bientôt de Pownell aussi un ministre de la vérité, la parole de vie, et il commença à voyager dans sa région d'origine au service du Seigneur. Il eut beaucoup de succès, amenant des centaines, sinon des milliers, à Christ au-dedans. Voyageant vers le sud, il défia les sectes établies dans leurs réunions, ce qui entraîna des difficultés avec les autorités. À l'été 1655, il visita plusieurs villes dans l'Essex, dans l'une desquelles il fut emprisonné pour trouble à l'ordre public, entre autres accusations. Il fut emprisonné à Colchester. Bien qu'il ait été acquitté par un procès devant jury, il refusa de payer une amende de 40 livres pour outrage au tribunal et outrage au ministère, imposé par le juge, irrité du verdict de non-culpabilité du jury. Sur le principe qu'il n'avait rien fait de mal, et que payer l'amende serait une tâche sur la vérité, il fut emprisonné. Voici le récit de George Fox de la mort de James Pownell, tiré de son journal. Pendant que j'étais en prison à Carlisle, James Pownell, un petit garçon d'environ 16 ans, vint me voir, et il fut convaincu de la vérité. Le Seigneur fit rapidement de lui un puissant ministre de la parole de vie, et beaucoup furent tournés vers Christ par lui, bien qu'il ne vécût pas longtemps. Car voyageant dans l'Essex pour l'œuvre du ministère, en l'année 1655, il fut enfermé au château de Colchester, où il endura de très grandes privations et souffrances. Le geôlier cruel le mit dans un trou dans le mur du château, appelé le four. Le mur était si haut au-dessus du sol qu'il y montait par une échelle, laquelle étant trop courte de 6 pieds, il était obligé de grimper de l'échelle jusqu'au trou par une corde fixée au-dessus. Et lorsque des amis auraient voulu lui donner une corde et un panier pour hisser sa nourriture, le geôlier inhumain ne le permit pas. Le geôlier le força à monter et descendre par cette courte échelle et la corde pour obtenir sa nourriture, ce qu'il fit longtemps, autrement il aurait pu mourir de faim dans le trou. Après quelque temps, ses membres devinrent très engourdis à force de rester couchés dans ce lieu. On exigeait encore de lui qu'il descende pour obtenir de la nourriture, et lorsqu'il remonta de nouveau l'échelle avec sa nourriture dans une main, et qu'il chercha la corde de l'autre, il manqua la corde et tomba d'une très grande hauteur sur les pierres. La chute le blessa si gravement à la tête, aux bras et au corps qu'il mourut peu après. Lorsqu'il fut mort, les méchants professants, baptistes, anglicans, puritains, calvinistes, congrégationalistes et presbytériens, pour couvrir leur cruauté, écrivirent un livre sur lui et dirent « Il s'est laissé mourir de faim ». Ce qui était un mensonge abominable, et il fut démontré que c'en était un par un autre livre, écrit en réponse, intitulé « La défense de l'agneau contre les mensonges ». Il fut enterré dans une tombe non marquée sur le terrain du château de Colchester. Ces paroles merveilleuses, avec une compréhension profonde de la vérité, vivent à jamais et sont pour nous une inspiration aujourd'hui, une inspiration à laisser Christ nous enseigner, comme il a enseigné à James Pownell à 14 ans. Pour un merveilleux récit de sa vie et de son ministère, avec beaucoup d'autres lettres plus belles et inspirantes, voyez ses mémoires sur ce site. La persécution des premiers Quakers. James Pownell fut le premier martyr Quaker parmi 350 premiers Quakers tués en prison ou lors d'attaques dans leur réunion durant les années 1652-1692. Les premiers Quakers manifestaient les fruits de la véritable Église de Christ. Comme Christ fut persécuté lorsqu'il était sur la terre, ainsi il est aussi persécuté partout où il s'est levé dans ses disciples. Sous le règne du roi Charlie seulement, 13 000 furent emprisonnés et 200 furent envoyés en esclavage au-delà des mers. Sous l'ensemble des rois, Bessie Sufferings recense 869 Quakers morts en prison, ce qui n'inclut pas ceux qui sont morts après avoir été attaqués en réunion par des foules en colère d'épiscopaliens, de puritains congrégationalistes, de presbytériens et de baptistes. En outre, d'innombrables milliers de Quakers virent leurs biens saisis, comme butin après condamnation pour quelque crime que ce soit. Ils étaient arrêtés et emprisonnés pour avoir voyagé le dimanche, pour ne pas avoir assisté aux offices religieux approuvés par l'État, pour n'avoir pas payé la dîme aux prêtres approuvés par l'État, pour avoir refusé de prêter des serments de fidélité, ainsi que pour de nombreuses accusations fabriquées comme le blasphème. Souvent traduits en justice sur de fausses accusations, leur refus d'ôter leur chapeau ou de jurer entraînait une incarcération automatique, plus la confiscation fréquente de leurs biens. George Fox, fondateur des Quakers, fut arrêté et traîné devant les tribunaux plus de 60 fois. Il passa 6 ans et demi en prison dans des conditions dures. Il passa 1 an en prison pour avoir refusé d'enlever son chapeau. Margaret Fox, son épouse, passa 10 ans en prison pour avoir tenu des réunions dans sa maison et pour avoir refusé de jurer lors de ses procès. La lumière de Christ était très menaçante pour la secte anglicane, les baptistes et les presbytériens, ainsi que pour la secte puritaine congrégationaliste, révolutionnaire par la suite d'Oliver Cromwell, qui déclencha une guerre civile sanglante, s'empara du pouvoir et fit exécuter le roi. Les premiers Quakers souffrirent patiemment sous tous les gouvernements de l'époque, bénissant, pardonnant et priant pour leurs accusateurs et leurs geôliers. Ils adressèrent des appels personnels et courtois aux autorités gouvernantes, mais jamais de protestation ni de résistance organisée. Leur souffrance patiente conduisit finalement le Parlement à voter des lois garantissant la liberté religieuse, qui furent également intégrées à la Constitution des États-Unis. Le Seigneur se servit de leur souffrance comme de l'épreuve pour conduire beaucoup d'hommes et de femmes à la perfection et dans le royaume des cieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, toutes les sectes déficientes d'aujourd'hui constituent la prostituée de Babylone de l'Apocalypse, dont toutes les nations ont bu le vin de la fureur de sa fornication, parce que toutes les sectes ne sont que des variétés évolutives de l'Église de l'Empire romain, tant à l'est qu'à l'ouest, dont les doctrines furent dictées par les empereurs canonisés Constantin et le despote Justinien, éliminant ainsi le véritable évangile des 390 âpres. J.C. Comme prophétisé dans l'Apocalypse, l'Église s'est adultérée avec les rois de la terre. Ce déficit n'a rien de surprenant quand on considère que les disciples et apôtres de Christ Jean, Pierre, Paul et Jude écrivaient de leur temps au sujet de faux enseignants et prédicateurs il y a 2000 ans. Il, la bête, lui, fut encore permis de faire la guerre au peuple saint de Dieu, les saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné le pouvoir d'étendre son autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. La bête du livre de l'Apocalypse est la bête de l'autorité religieuse païenne, dont la puissance fut sévèrement réduite une blessure à la tête par le christianisme primitif, particulièrement dans la région méditerranéenne. Mais une seconde bête surgit bientôt, qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais était une bête. Notez, cette bête paraît chrétienne, et sous prétexte de l'autorité de l'agneau, bien qu'agit par la puissance du dragon, dérivée de la première bête de la religion païenne, contraint les hommes à se conformer à de telles traditions, cérémonies et rituels, comme devoirs chrétiens qui ressemblent aux coutumes des païens dans leur culte idolâtre et leur superstition. Toute la terre suivit cette bête et la suit encore. Ainsi se leva la fausse Église, et quiconque niait cette fausse Église, ou qui ne confessait pas ses péchés à un prêtre catholique trois fois par an, ou qui ne recevait pas l'Eucharistie, pain et vin trois fois par an, était martyrisé lors de l'Inquisition. Toutes les maisons suspectes et les propriétés entières étaient méticuleusement fouillées, à l'intérieur et à l'extérieur des villes, par un prêtre, pour trouver de tels hérétiques qui ne se conformaient pas aux sacrements catholiques. Ainsi, si les gens ne cherchaient pas Dieu et Christ en se conformant à la méthode de culte de la secte catholique, ils étaient exterminés comme de la vermine. En se conformant au culte de la secte catholique, ils recevaient sa marque. Quiconque cherchait à accroître sa mesure de Christ, à acheter ou vendre de l'huile spirituelle pour ses lampes par une voie différente de celle des masses de l'Église catholique, n'avait pas la marque de la fausse Église, et non seulement on l'en empêchait, mais il était aussi brutalement torturé dans l'Inquisition, puis tué, ce qui le rendait réellement incapable d'acheter ou de vendre. Acheter ou vendre sont des métaphores, signifiant acquérir davantage du Saint-Esprit, ce que plusieurs autres écritures démontrent aussi par d'autres métaphores ou eau, pain, vin, or, huile pour le Saint-Esprit. Achète la vérité, et ne la vend pas, achète aussi la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Proverbes 3:23 Venez, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, et celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Et votre argent durement gagné pour ce qui ne rassasie pas, écoutez-moi attentivement et mangez ce qui est bon et que votre âme se délecte dans l'abondance. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et obéissez et votre âme vivra. Hébreux 5:1-3 Quel pain? Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6:35 L'Esprit donne la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et sont vivifiantes. Jean 6:63 Je te conseille d'acheter de moi de l'or raffiné et éprouvé au feu, afin que tu deviennes riche. Actes 3:18 L'or raffiné et éprouvé au feu est la foi qui a été testée et éprouvée par le feu, épreuve, souffrance et tribulation, faisant toute partie de la croix que chaque croyant doit endurer pour entrer dans le royaume. Pour plus de détails sur la marque de la bête, voir la note de bas de page d'Apocalypse 13:16-17 dans la Bible en ligne de ce site. Au cours du Moyen Âge, 800 âpres, J.C., à 1500 âpres, J.C., 9 millions d'âmes ont été mises à mort par les catholiques romains. Voir de Middle Age persécution pour savoir comment 9 millions de personnes ont été tuées à travers l'Europe. De la parole du Seigneur au-dedans, on pouvait voir que tout homme qui n'était pas en conformité ou en accord avec l'Église catholique était tué. Et tandis que cette fausse Église est souvent identifiée par les protestants comme l'Église romaine, les protestants font tous partie de la même fausse prostituée, sa bête porte bien des noms, et de sectes déficitaires pratiquant les inventions humaines et catholiques, le baptême des nourrissons, la Trinité jamais mentionnée dans les Écritures, le mariage célébré par des prêtres, des bâtiments vains et orgueilleux du saint, des clochers avec des cloches, des robes noires, des chemises noires, des cols spéciaux, des credos, la lecture de sermons, des sacrements. Les offices protestants ont leurs racines dans la messe catholique, contraire à toutes les directives du Nouveau Testament et d'origine médiévale, reflétant des rituels magiques, païens et du théâtre grec, séparant le corps du Christ en deux classes, l'ordre clérical privilégié et mis en avant, contre l'auditoire ou les laïcs qui ne faisaient que regarder et écouter le spectacle dramatique appelé culte. Sous la direction de l'empereur Constantin, qui avait empoisonné son fils et fait bouillir sa femme à mort, la secte catholique fut incorporée au gouvernement romain, qui en prescrivit la doctrine, construisit ses églises dans tout l'Empire, paya le clergé, l'habilla de façon identique aux fonctionnaires du gouvernement romain, abolit la Pâque pour en faire Pâques, et fixa Noël pour coïncider avec les fêtes païennes romaines. des noms chrétiens furent appliqués à divers rituels et traditions païens, donnant de la crédibilité aux gens sans méfiance. Tous les croyants chrétiens d'Icide furent soit bannis en exil, soit tués. Bien des persécutions catholiques romaines furent justifiées par la célèbre phrase de saint Augustin : pourquoi l'Église ne devrait-elle pas recourir à la force pour contraindre ses fils perdus à revenir, si les fils perdus ont contraint d'autres à leur destruction ? Un exemple classique de la fin justifie les moyens, qui perd de vue le commandement principal du Christ, aimer ses ennemis et non les détruire, un autre supposé saint. Thomas d'Aquin écrivit : du côté de l'Église cependant, il y a une miséricorde qui vise la conversion de l'errant, c'est pourquoi elle ne le condamne pas aussitôt, mais après une première et une seconde admonestation, comme l'apôtre l'ordonne. Après cela, s'il demeure obstiné, l'Église, n'espérant plus sa conversion, vise au salut des autres en l'excommuniant et en le séparant de l'Église, et de plus le livre au tribunal séculier afin qu'il soit exterminé du monde par la mort. Ces saints, vénérés, ignorent la réponse du Christ à ses disciples lorsqu'il voulait punir les gens qui ne voulaient pas l'écouter, les réprimandant sévèrement : vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Si quelqu'un viole les normes de l'Église, pêche, il est censé être averti par un, puis averti par deux ou trois, puis censuré par tout le corps des croyants, et s'il ne se repent pas de son erreur, il est censé être expulsé et évité, non pas tué, ni emprisonné, ni torturé, ni dépouillé de ses biens. Les protestants ont aussi tué des hérétiques. Jean Calvin était l'un des principaux fondateurs du protestantisme, exerçant une grande influence sur les presbytériens, les congrégationalistes, les baptistes et même les luthériens. Calvin fit arrêter Servet, rédigea des accusations d'hérésie contre lui et témoigna contre lui lors de son procès. Le crime de Servet était d'avoir nié l'appui scripturaire de la Trinité et du baptême des nourrissons. Les accusations de Calvin et son arrestation entraînèrent Servet à être brûlé sur le bûcher. Jacques Gruet, opposant notoire de Calvin, fut arrêté, torturé pendant un mois puis décapité le 26 juillet 1547, pour avoir placé une lettre dans la chair de Calvin le traitant d'hypocrite. Calvin fit également brûler sur le bûcher 34 femmes comme sorcières accusées d'être responsables d'une peste. On attribue à sa théocratie à Genève un total de 58 condamnations à mort. Calvin justifia l'exécution des hérétiques, écrivant : quiconque soutiendra qu'on fait tort aux hérétiques et aux blasphémateurs en les punissant se rend complice de leurs crimes et coupable comme eux. Il n'est pas question ici de l'autorité de l'homme, c'est Dieu qui parle, et il est clair quelle loi il veut voir observée dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Pourquoi donc exige-t-il de nous une sévérité si extrême ? Sinon pour nous montrer que l'honneur qui lui est dû n'est pas rendu, de sorte que nous n'épargnions ni parents, ni le sang de quiconque, et oublions toute humanité quand il s'agit de combattre pour sa gloire. Les apologistes de Calvin, qui versaient le sang et oubliaient toute humanité, font valoir que bien d'autres protestants ont aussi tué des hérétiques, la défense du « tout le monde le faisait », mieux vaudrait dire « tous les grands hommes de Dieu d'alors étaient donc des meurtriers ». Jésus a dit : quiconque vous tuera pensera et prétendra qu'il a rendu un service à Dieu. Jean 16, 2. Un autre fondateur protestant vénéré fut Martin Luther, rempli de haine envers les Juifs. D'après l'article Wikipédia sur Martin Luther et d'après l'article Wikipédia sur la nuit de cristal, la nuit des vitres brisées, Luther prenait d'abord la bonté envers les Juifs, mais uniquement dans le but de les convertir au christianisme, ce qu'on appelait Judas Mission. Lorsque ses efforts de conversion échouèrent, il devint de plus en plus amé à leur égard. Ses principaux écrits sur les Juifs furent son traité de 60 000 mots Vonden Juden und ihren Lügen, des Juifs et de leurs mensonges, et Vom Schem Amphoras und Vom Geschlecht Christi, du Saint Nom et de la lignée du Christ, réimprimés 5 fois de son vivant, tous 2 écrits en 1543, 3 ans avant sa mort. Il soutenait que les Juifs n'étaient plus le peuple élu, mais qu'ils étaient le peuple du diable. Ils étaient un peuple vil, prostitué, c'est-à-dire pas un peuple de Dieu, et leur vantardise de lignée, de circoncision et de loi doit être considérée comme de la saleté. La synagogue était une épouse souillée, oui, une prostituée incorrigible et une mauvaise traînée, et les Juifs étaient pleins des excréments du diable dans lesquels ils se vautrent comme des porcs. Ils préconisaient de mettre le feu aux synagogues, de détruire les livres de prières juifs, d'interdire aux rabbins de prêcher, de saisir les biens et l'argent des Juifs, de démolir leurs maisons, et de veiller à ce que ces vers venimeux et empoisonnés soient forcés au travail ou expulsés pour toujours. Il semblait aussi cautionner leurs meurtres, écrivant « Nous avons tort de ne pas les tuer ». La persécution nazie des Juifs en Allemagne commença à grande échelle lors de la nuit de cristal, la nuit des vitres brisées, au cours de laquelle 200 synagogues furent incendiées, des livres, rouleaux et antiquités juifs furent brûlés. 7 500 devantures de commerce juifs furent saccagées d'où le nom vitres brisées, des pierres tombales et des tombes furent arrachées, 30 000 juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration, au moins 100 furent immédiatement assassinés, et de nombreuses maisons furent pillées. Un pogrom similaire d'une ampleur comparable eut lieu à Vienne, en Autriche, la même nuit. Ces événements eurent lieu les 9 et 10 novembre 1938, l'anniversaire de Lude était le 10 novembre. Le conseil de Lude fut appliqué à la lettre lors de la nuit de cristal. Ce fut le début de la solution finale et de l'Holocauste. Selon Michael, l'œuvre de Lude acquit le statut d'écriture en Allemagne et il devint l'auteur le plus lu de sa génération, en partie à cause du caractère grossier et passionné de son écriture. L'opinion dominante parmi les historiens est que sa rhétorique anti-juive contribua de manière significative au développement de l'antisémitisme en Allemagne et, dans les années 1930 et 1940, fournit une base idéale aux attaques des nationaux-socialistes nazis contre les juifs. Reinhold Lewin écrit que « quiconque écrivait contre les juifs, pour quelque raison que ce soit, croyait avoir le droit de se justifier en se référant triomphalement à Lude. » Selon Michael, à peu près chaque livre anti-juif imprimé dans le Troisième Reich contenait des références à Lude et des citations de Lude. Heinrich Himmel écrivit avec admiration au sujet de ses écrits et sermons sur les juifs en 1940. La ville de Nuremberg offrit une première édition de Des Juifs et de leurs mensonges à Julius Treche, rédacteur du journal nazi Der Stürmer, pour son anniversaire en 1937. Le journal le décrivit comme le traité le plus radicalement antisémite jamais publié. Le 17 décembre 1941, sept confédérations régionales d'églises protestantes publièrent une déclaration approuvant la politique visant à forcer les juifs à porter l'étoile jaune, puisque, après son amère expérience, Lude avait déjà suggéré des mesures préventives contre les juifs et leur expulsion du territoire allemand. Vous commencez peut-être à voir qu'en 388 âpre, J.C. La chrétienté avait été transformée en synagogue de Satan, avec des ministres de Satan transformés pour paraître comme des ministres de justice. Augustin et Thomas sont deux des quatre piliers du catholicisme romain. Calvin et Lude sont les principaux fondateurs du protestantisme. Si les fondateurs vénérés des sectes sont mauvais, comment les sectes et les doctrines qu'ils ont promulguées pourraient-elles ne pas être mauvaises aussi? Quand la racine est mauvaise, peu importe le nombre de branches sur l'arbre, elles sont mauvaises aussi. De la parole du Seigneur au-dedans, ils sont corrompus de part en part et malheur à ceux qui essaient de tirer le bien du mal. Et la prostituée était ivre du sang des saints, les inquisitions et massacres de l'Église romaine à travers l'Europe, au cours desquels, pendant le Moyen Âge 800 âpre, J.C., à 1500 âpre, J.C., 9 millions d'âmes furent mises à mort, accusées de sorcellerie. Cela fut suivi par les protestants d'Angleterre et d'Amelecuro, une 50 years ou responsable de la mort de plus de 869 Quakers au XVIII siècle. Les persécuteurs des Quakers comprenaient des épiscopaliens, des presbytériens, des congrégationalistes et des baptistes. Elle se vante de ne pas être veuve et de ne jamais voir le deuil. Elle se vante que le Christ est son mari. Mais elle, la prostituée, ne fait que revendiquer son nom et ignore ses commandements de se repentir, ses enseignements, ses exigences, ses avertissements, sa sainteté requise, son évangile, son royaume, sa liberté promise du péché et sa croix intérieure de renoncement à soi, la croix manquante vers la pureté. Ce mystère d'iniquité est permis par Dieu pour éprouver l'engagement des élus envers la vérité. Voir Babylone pour en savoir plus. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous ne receviez point de ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. C'est pourquoi ses plaies viendront en un seul jour, la mort, le deuil et la famine, et elle sera entièrement consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui la juge. Sur ce site figurent de nombreux autres récits des persécutions que les premiers Quakers ont subies, tant dans leurs réunions qu'au tribunal et en prison. Tant de persécuteurs des premiers Quakers connurent des morts étranges et prématurées qu'un livre fut publié à l'époque, documentant la vengeance de Dieu contre les ravageurs de son peuple. Comme il est écrit que cela arriverait à ceux qui touchent à la prunelle de son œil, c'est à moi qu'appartient la vengeance, je rendrai. En temps voulu leur pied glissera, leur jour de désastre est proche et leur ruine fond sur eux. 2.32.3 Le mouvement Quaker aujourd'hui ne recherche plus la pureté, ni l'entrée dans le royaume des cieux au-dedans. Au lieu de cela, les Quakers d'aujourd'hui se concentrent sur la justice sociale extérieure et les protestations contre la guerre. Le but de ce site est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.